Bienvenue sur le podcast de Nat Véro, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme.
Hello tout le monde, c'est le retour. Ça y est, Nat et Véro, on commence à être plutôt pas mal.
Je pense qu'on a un bon rythme là.
On est trop contente. Je suis toujours avec Aude aujourd'hui.
Hello tout le monde.
Et aujourd'hui, on reçoit Marc.
Bonjour à tous. Salut Marc. Merci de votre invitation.
Et merci à toi.
Effectivement, on a invité Marc parce que Marc nous a écrit directement sur l'adresse email de Nat et Véro.
Exact.
Pour nous demander si on avait l'intention de parler d'un sujet qui est le fétichisme.
Vaste sujet.
Vaste sujet. Ce à quoi on lui a répondu que
oui.
Non.
Enfin, oui, on veut, et non, on n'a jamais parlé. C'est l'enthousiasme qui parle.
C'est ça. Donc, on serait ravis d'en parler et on lui a proposé de venir et il a accepté. Et donc, c'est nous qui te remercions aussi d'avoir accepté notre invitation. Du coup, c'est quoi le fétichisme? On va en parler un peu plus en détail juste après. On pense forcément à une excitation, une tension sexuelle causée par une partie du corps. On parle beaucoup des pieds, mais ça peut aussi provenir de plein d'autres choses.
Exact.
Et on va, c'est ce qu'on va détailler ensemble juste après.
Pas de soucis.
Alors, avant tout
comme d'habitude, tout ça, roulement de tambour, vous commencez à être habitué. On va commencer avec des petites questions rituelles, Marc, si tu veux bien. Enfin, même si tu veux pas, en fait, t'es obligé.
Obligatoire.
C'est obligatoire. Déjà, petite précision, Marc est arrivé avec des macarons.
Ah, oui.
On tenait à le remercier. Donc, petit message subliminal pour les prochains. Il faut faire mieux que les macarons la durée. Voilà.
La barre est haute.
La barre est très, très haute.
C'est une très grosse boîte.
Sans connotation aucune. Alors, du coup, petite question rituelle. La première, on commence toujours par la nouvelle question de la nouvelle saison.
Ouais.
C'est qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'être un homme, pardon.
Qu'est-ce qu'être un homme
toi.
Pour moi. Ah, c'est une bonne question. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait garder le cap dans la tempête. En fait, c'est un socle. C'est en fait une fois. Une amie m'a demandé ce que c'était le plus dur dans mon rôle de papa solo. Et je lui ai dit, c'est de mentir. Et en fait, je suis un peu désolé parce qu'il y a plein de choses qui reviennent, mais j'ai eu une année 2019 très compliquée. Et tous les jours, il fallait que je puisse regarder dans les yeux de mon fils en lui disant, t'inquiète, ça va le faire, quoi. Et c'est ça, être un homme pour moi.
Ouais. C'est beau. Ouais. Mmh.
Excusez-moi.
Non, mais il n'y a pas de souci.
T'inquiète pas, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Du coup, on va changer de sujet, ça va nous permettre de... Voilà. On voulait savoir un petit peu ton adolescence, ton parcours d'adolescent.
Ouais.
Et puis, si tu veux comme ça mélanger à l'intérieur, parce que la troisième petite question rituelle, c'est sur le modèle familial.
Ouais, pas de souci. Ouais.
Vas-y, ta carte blanche.
J'ai mes parents qui sont toujours mariés. Je pense que j'ai des parents qui sont très aimants, mais pas dans la communication. Je l'ai appris récemment parce que cet été, je lisais Les 5 langages d'amour des enfants de Gary Chapman, je crois, qui est un très beau bouquin, très intéressant, que je recommande. Et en fait, on a tous un langage d'amour différent qu'on a besoin de remplir dans la vision de l'autre. Et donc, ça m'a permis de valider que mon fils se foutait des cadeaux, mais que ce qui est important pour lui, c'était les moments de qualité et le contact physique, en fait. Et donc, moi, j'ai eu des parents très aimants, mais surtout dans le soutien. Par contre, j'ai connu mes parents souvent séparés physiquement du fait du travail de mon père. Il partait souvent. Et moi, j'ai vécu en internat de l'âge de 13 ans à 20 ans quasiment. Et donc, en fait, j'avais l'impression d'être un peu livré à moi-même, entre guillemets. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on était livré à nous-mêmes entre quatre murs. On n'avait pas le droit de sortir et on faisait les 400 coups et c'était génial. Et après, quand je rentrais chez moi, chez mes parents le week-end, c'était un peu une éducation assez stricte, très exigeante, notamment sur la qualité des études, ce genre de choses. J'étais plutôt réservé, plutôt timide.
Quand tu rentrais, pardon, tu retrouvais des frères et sœurs ?
J'ai un grand frère, oui, excuse-moi, c'est important de le dire, parce que moi je suis le deuxième d'une fratrie, donc j'ai un grand frère qui est de 2 ans mon aîné, et c'est vrai que la place dans la fratrie est importante, parce que tu comprends en fait les attentes que ont tes parents vis-à-vis de toi par rapport à ton aîné, surtout que c'est un garçon, c'est pas une fille, donc c'est différent. Et en fait, tout ça, je l'ai compris ces 2-3 dernières années parce que j'ai fait un gros travail personnel pour comprendre ce qui s'était passé dans ma vie, pourquoi j'avais merdé des trucs et pour pas ne reproduire ça avec mon fils en fait.
Ouais.
Voilà, donc c'est un travail que j'ai entamé il y a 3-4 ans qui continue. J'espère en voir le bout, mais je sens que j'ai encore des blocages, mais j'ai fait bouger des lignes déjà, mais c'est pas, mais voilà, du coup, c'est pas évident.
Tu as une enfance, des souvenirs d'enfance heureuse.
Très heureuse, ouais. Voilà. Très heureuse. Mais j'ai pas de souvenirs de je t'aime, de je te prends dans mes bras, d'accord, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que
ça t'a conditionné un petit peu.
C'est, en fait, je discutais avec une copine il y a pas longtemps qui me disait, est-ce que tu dis souvent je t'aime à ton fils? Et je lui dis, bah non, mais par contre, tous les matins, quand je le lève, je m'allonge dans le lit avec lui, on fait un câlin. Donc, c'est ma manière de lui dire je t'aime, mais c'est vrai que ce n'est pas des mots, en fait, c'est plus des actes. Et pour moi, les actes sont très importants. Je ne dis pas que les mots n'ont pas de valeur, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à joindre les actes aux mots, en fait. Et être dans l'action, c'est engageant, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu cette difficulté à des fois, à dire les choses, en fait.
Et du coup, est-ce que tu penses que ça... Il y a beaucoup de choses. Le but n'est pas de faire une liste, bien
entendu. Non, bien sûr.
Comme ça, de ton enfance, de ton éducation, que du coup, tu as avec ton fils, notamment, donc tu parlais des actes plus que des mots. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose que tu reproduis, l'éducation, le niveau d'études?
Ouais, l'éducation est très importante pour moi, je l'avoue. Moi, je viens d'une... Enfin, mes deux parents viennent de milieux très, très modestes. Pas pauvres, mais vraiment très modestes. Mon père s'est élevé grâce à l'éducation. C'est quelque chose je pense qui est important pour moi. Je pense peut-être la place de... Enfin, même en étant divorcé, c'est bizarre, j'en discutais encore hier soir avec une amie. Même en étant divorcé, je suis très attaché aux valeurs du mariage. Je pense que j'ai encore des schémas un peu qui viennent de mon éducation. Pareil, je suis, comment dire, la place de la religion est importante par rapport aux valeurs qu'elle véhicule, l'écoute, le soutien, l'importance de la famille nucléaire, même si moi j'ai malheureusement divorcé. Et pareil, c'est des choses importantes, ouais.
Super.
Et t'as ton enfance ou ton modèle familial t'a conditionné aussi
Non,
mais sur le mariage.
Est-ce
que tu sens que t'as suivi un modèle ou un schéma où finalement, après, non, à 44 ans aujourd'hui, tu te dis finalement j'ai suivi quelque chose qui n'était peut-être pas fait pour moi
je suis complètement en miroir inversé par rapport à mes parents, dans le fait que moi je suis parti vivre en Chine pendant 5 ans après mes études, et quand je suis revenu en France j'ai épousé une Asiatique par amour, mais je pense aussi, et ça c'est le fait d'avoir fait une psychanalyse, par peut-être contestation vis-à-vis de ma mère qui, le jour où je suis parti en Chine, le seul truc qu'elle m'a dit, c'est « tu me rapportes pas une chinoise ». Après, quand j'étais adolescent, j'ai toujours été attiré par les filles asiatiques, en fait. Toujours.
Ouais. Oui, donc finalement, c'était aussi...
C'était cohérent avec ce que moi j'aimais dans mes goûts personnels de ma vie de tous les jours. Quoi.
Ok.
Donc j'ai un enfant métis. Voilà.
Okay. Les plus beaux. J'ai un neveu métis aussi. T'as eu la yellow fever.
Ouais.
Voilà. donc on reviendra pas forcément sur ton histoire. Voilà. Aujourd'hui tu nous as dit que tu avais divorcé, que tu élèves ton
exactement.
Garçon.
C'est du sport.
Seul.
C'est du sport. Ouais. Mais c'est cool. Je suis. Tu sais. Enfin, je sais pas si je peux me permettre une réflexion, mais.
Vas-y.
Tu sais, il y a des soirs, je suis claqué, j'en peux plus. C'est vraiment du sport, tu vois. Mais à chaque fois qu'il y a ça, je me dis, putain, je pourrais... Ouais, excuse-moi.
C'est pas grave, prends ton temps.
C'est pas grave, t'inquiète.
Désolé.
Mais t'as pas à t'excuser.
Ouais.
Tu plaisantes, c'est normal. C'est beau ce que tu dis.
Tu vas nous dire, ouais, grave.
Bah ouais.
Voilà.
Mais chaque fois que tu le vois, en tout cas, ça te...
En fait...
C'est la plus belle chose au monde.
Ouais,
quoi.
C'est... En fait, je raconte souvent cette histoire que, en fait, quand il est né, j'étais dans la salle d'accouchement et j'ai failli faire un malaise parce que...
Trop d'émotions.
Ouais. Et en fait, quand il est sorti du ventre de sa maman, j'étais du côté de sa tête. Donc, je suis la première personne qui l'a vu. Et la sage-femme l'a pris pour l'emmener dans une... Excuse-moi. Pour l'emmener dans une salle. Et j'ai tellement eu peur qu'elle me le prenne que je l'ai suivi, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai l'impression de jamais avoir lâché sa main. Et du coup, quand j'ai divorcé, j'ai dit à mon avocate, on lâche surtout, mais pas sur la garde. La garde, elle est pour moi. Je suis le papa et la maman depuis des années. Ça continue comme ça, quoi.
Ouais.
Désolé.
Mais arrête, t'as pas du tout à t'excuser. Et puis, en plus de tout, c'est beau. De deux, c'est naturel. Et de trois... tous ceux qui, on en a un peu parlé dans les épisodes précédents, qui disent qu'un homme, ça sert à rien, et que, etc., etc., et qu'il les qualifie de mots, trois petits points, ça fait un pied de nez à toutes ces personnes-là, et que c'est pas parce qu'on est un homme que, on n'a pas d'instinct, soi-disant, paternel, et puis que surtout, on n'est pas capable de s'occuper de son enfant, et donc non, c'est magnifique, donc tu devrais être fière plutôt que gênée.
Ouais, bon, c'est l'émotion, je pense, je suis pas toujours très à l'aise avec parler de ces choses-là, mais c'est juste ce que je voulais dire. C'est en fait, bien sûr, c'est pas le modèle que je voulais pour lui. Je voulais un peu, enfin, si je fais un stéréotype, c'est un peu la famille Kinder. Je voulais qu'on aille tous les matins main dans la main, l'emmener à l'école. Bon, ça s'est pas passé comme ça. C'était plus compliqué avec sa maman. Elle s'est un peu désengagée rapidement, je trouve. Après, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de place parce que j'ai réagi en miroir inversé par rapport à la relation que j'avais avec mon père. Et je pense que je réalise des années après qu'en fait, je suis né pour être papa, mais je ne le savais pas, quoi. Ouais. Voilà.
Mais tu sais qu'on entend beaucoup, beaucoup ça. Ouais. On entend beaucoup ces témoignages d'hommes. Ouais. Pascal, qui était passé aussi, le dit souvent. Quand ils sont arrivés, c'est ouf, quoi.
Ça change la
Fouad
vie, quoi.
Aussi, le dernier. Ouais. Ouais. Fouad, il en voulait pas au début. Ouais. Et il nous dit, mais...
Il n'était pas forcément très chaud à l'idée d'eux.
Et là, c'est super papa, quoi. Il dit, mais...
Moi, j'étais tétanisé, je me posais toutes les questions. Est-ce que je serai un bon père? Est-ce que j'aurai assez d'argent, assez de temps? Et puis, au fait, de toute façon, tu fais de ton mieux, tu fais avec ce que tu as. Et t'essaies d'avancer. Maintenant, la situation, elle est différente. On est seuls tous les deux. Ça a été compliqué au début. Maintenant, ça va mieux. On a toujours une bonne entente. Des fois, ça gueule un peu pour les devoirs. Ouais. Parce que, voilà,
c'est normal. C'est la vie, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est clair. On se pose 50 questions, mais bon, c'est comme ça, quoi.
Et du coup, sa maman est plus en France ?
Si, elle est toujours en France. Okay. En fait, il est avec moi toute la semaine. Okay. Il va chez sa maman le week-end et après, les vacances sont partagées.
Okay.
Donc, j'ai un peu que les moments chiants, mais je voulais vraiment garder la main sur l'école. Et puis, on fait des trucs, quoi. On fait des petits trucs à côté, quoi. Ouais. Mais c'était important pour moi de garder un peu la main sur tout ce qui est éducation, qui a un cadre, en fait. Je suis assez chiant, assez carré sur certaines choses. Donc, c'était important qu'il garde ce cadre-là, quoi.
Voilà. On n'en parlera pas, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, pour entendre des copains qui divorcent et qui disent qu'ils n'arrivent pas à avoir la garde, c'est toi, tu as dû batailler parce que quand même le système va quand même vers la maman.
Ouais, souvent vers la maman, ouais, c'est vrai.
Et en tout cas, si après, pour faire après une transition, mais aujourd'hui, donc t'es l'homme le plus heureux avec ton petit garçon.
Ouais.
Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas commun, en tout cas dans la société, un papa qui... ouais. C'est ça.
C'est vrai que des fois, quand je croise des femmes, je pense que la plupart des femmes ont la délicatesse de ne pas poser les questions qui font mal. Et celles qui le font sont pas... je ne veux pas dire pas bienveillantes, mais ce n'est pas la peine de poser 50 questions, quoi. Je veux dire, c'est... Je suis très honnête sur mon statut de papa solo parce que j'annonce la couleur entre guillemets parce que j'ai conscience que ça surprend, mais c'est peut-être pas la peine de gratter non plus. Non. Voilà, quoi. Mais après
Mais c'est la preuve du coup que au-delà de la société ou même de la justice qui peut être parfois dure à changer, les esprits et même les esprits féminins, on a compris, quoi, je crois, sont aussi difficiles à changer.
Je pense qu'il y a aussi le fait que moi j'évolue quand même dans de par l'éducation que je donne à mon fils, j'évolue quand même dans un milieu catholique traditionnel qui, je pense, n'aurait peut-être pas le divorce comme quelque chose de positif. Mais après, il y a aussi une forme d'hypocrisie dans le sens où beaucoup de gens restent ensemble par pression sociale, pression financière. Donc, je ne suis pas dupe de la situation, mais voilà, c'est comme ça, quoi.
Ouais. Donc, petite leçon, déjà première leçon, ne pas être choqué ou trop surprise d'un papa solo, parce qu'en fait, il y a des mamans solo et on n'a pas le même comportement et donc c'est intéressant aussi de voir que vous en souffrez ou vous êtes aussi touché par le fait que on soit un peu surpris que tu sois un papa solo. Donc voilà, c'était juste aussi pour faire une petite leçon.
C'était très, très, très intéressant.
Et donc, on continue.
On revient du sujet.
On revient sur le sujet, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est Natevero.
Il n'y a pas de quiz.
Non, parce que tu vois...
C'était un peu long, mon explication était un peu longue.
Mais pas du tout. C'est juste qu'on se laisse porter par le flow.
Voilà.
On laisse kiffer la vibe.
Voilà.
C'est pas grave si ça répond pas à toutes les questions. On est vraiment...
Il n'y a pas l'objet fétiche du jour ou je sais pas quoi.
Ah bah si, ça, on l'avait oublié. Merci. En fait, c'est les invités.
T'avais pensé
qui nous excusez-nous, mais généralement...
T'as bien un objet fétiche en tête, toi ?
Je sais que ça se voit pas, mais... Alors, je vous ai ramené un disque vinyle, donc en fait, qui est sorti... Alors, je sais que ça se voit pas à ma tête, mais moi, j'ai découvert la culture hip-hop en 88. Et depuis, je suis toujours accro, donc je collectionne les disques. Je dois en avoir peut-être 5000. Enfin, j'ai arrêté de compter, mais j'en ai beaucoup. Et donc, je suis fan du rap new-yorkais des années 90. Et donc là, je vous ai ramené un disque qui est sorti en septembre, en fait, qui est la réédition, enfin, l'édition, parce qu'il n'est jamais sorti en vinyle, il était sorti en CD, d'un rappeur qui s'appelle Big L de New York et qui faisait partie d'un collectif qui s'appelait DITC, qui est un collectif de rappeurs et de producteurs new-yorkais que j'aime beaucoup. Et donc qui est sorti pour le Record Store Day. Et en fait, l'histoire de ce rappeur, c'est qu'il a fait partie des gens qui ont aidé Jay-Z à lancer sa carrière. D'accord. À l'époque, il est passé dans un show radio qui était très connu à New York, qui s'appelait Stretch et Bobito. Et il a fait un freestyle qui est très connu avec Jay-Z, qui est sur YouTube. Mm-hmm. Et à l'époque, il avait dit, vous allez voir, Jay-Z, il est vraiment fort. Et donc après, Jay-Z a sorti son premier album solo, là, Reasonable Doubt, qui a cartonné, que je trouve qu'il est un très bon album. Et donc, en fait, Jay-Z voulait renvoyer l'ascenseur à Big L. Elle voulait signer sur son label, Rocafella Records. Mais Big L est décédé avant de pouvoir signer. Mais c'est vraiment un rappeur que je trouve qui est très fort. Et donc, voilà, c'est un peu la... C'est
génial,
un peu ma...
Mon... Ta passion.
Ouais, c'est la passion.
Dans Taratata, en fait, là.
Ouais, c'est trop bien.
C'est génial.
Ah ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci.
Est-ce que tu le danses aussi, le hip-hop?
Alors non, pas du tout, mais par contre, je fais des mixtapes, je fais des mix pour des radios et j'ai travaillé avec d'autres rappeurs sur pas mal de trucs. Donc, une fois que mon rôle de papa s'arrête, je me prends pour un artiste. Et voilà.
Pourquoi est-ce que tu te prends pour un artiste? Ça va plus nous sommes.
Non, mais c'est génial. Franchement, on n'aurait jamais pensé, tu vois. Non, génial. J'adore.
Mais grave.
Merci.
Donc en fait, c'est aussi ton métier un peu, t'es dans la musique?
Pas du tout, je travaille dans l'informatique, ça n'a rien à voir. J'ai trois vies différentes. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, j'ai toujours voulu avoir une double vie, en fait. Mais vraiment une double vie du style une vie carrée, 9h, 18h pour le taf, et après faire de la musique. Donc je ne pensais pas que j'aurais une triple vie en étant papa solo, mais...
Bah, ça rend les choses encore plus riches, et donc c'est super, quoi.
Mais grave, merci, parce que franchement, on n'a pas pensé à l'objet fétiche, on s'est dit, bon, il a peut-être pas envie,
et
trop bien.
Si.
Parce que tu vois, il faut qu'on le garde, ça, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas douté.
Je sais, avec la tête que j'ai, je me doute que...
Alors, je vous rassure, hein, je sais pas ce que vous imaginez de l'autre côté de votre micro, hein,
mais traditionnel, tu ne dis pas qu'il écoute du hip-hop, Marc.
C'est clair.
Au-delà du fait de l'écouter, spécialiste en la matière, parce que moi, à part Jay-Z et le label, j'en pipe pas une. Là.
Génial, bah merci beaucoup en tout cas. Alors, écoute, on va repasser sur le sujet, notre sujet sur lequel on voulait un peu discuter avec toi, le fétichisme.
Oui.
Quelque chose d'ailleurs que tu as expérimenté, non pas dans ta précédente relation, mais plutôt après ton divorce.
Exactement.
Et on voulait un petit peu savoir comment ça s'est passé en fait et comment tu as expérimenté ce nouveau...
Alors en fait, je pense que alors moi, il faut peut-être le préciser, je suis très attiré par tout ce qui est nylon et notamment tout ce qui est bas couture et toute la corsetterie associée. Donc c'est tout ce qui va être porte-jartelle, corset, guépière. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très très longtemps, mais que j'ai enfoui en moi du fait que j'ai une éducation très, je ne vais pas dire puritaine, mais assez stricte. Donc je voyais ça comme quelque chose d'entre guillemets, le mot est peut-être mal choisi, mais de sale en fait. Et je pense que la première chose auquel je pense, c'est, je me souviens quand j'étais en études supérieures, j'avais une copine qui était assez entreprenante, on va dire, et qui m'avait dit, bon, samedi soir, on se voit. Donc, je m'étais retrouvé assis au cinéma à côté d'elle. Et en fait, à un moment, elle avait pris ma main et elle l'avait posée sur sa jambe. Et j'ai ressenti quelque chose au fond de moi, mais je m'en souviens encore 25 ans après. Enfin, une espèce de chaleur et de douceur en même temps, mais qui m'a pris le corps instantanément. Quoi.
Ouais, parce qu'elle pas... portait, justement.
Ouais, justement. Ouais. Et elle m'a laissé caresser sa jambe toute la soirée, on va dire. Ouais. Quoi. Et bon, voilà. Et après, je pense que c'est quelque chose que j'ai enfoui en moi, quoi. Parce que je sais pas, je trouvais ça bizarre. Enfin, je savais pas que c'était un fétichisme, j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et donc fast forward 25 ans après, donc je me sépare de la mère de mon fils. Et très rapidement, je rentre dans une relation qui n'aurait pas dû arriver, mais qui est arrivée en fait. Et c'est peut-être intéressant de parler comment j'ai rencontré cette fille, c'est-à-dire que moi, je me sentais pas. Enfin, j'avais l'impression que je pourrais jamais refaire une relation amoureuse après mon divorce, étant donné que j'étais papa solo. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un via les sites d'application et on a discuté, on s'entendait très bien. Mais il n'y avait pas d'attirance physique, entre guillemets. Donc, on s'était vu juste pour prendre un verre. Ouais. Et elle était venue avec sa sœur. Donc, au cours de la conversation, on vient discuter de tout et rien. Donc, comme il n'y a pas d'enjeu, j'étais très libre, très ouvert.
Oui, c'était léger, quoi.
Exactement. Ouais. Mais j'en viens à parler de cette attirance, en fait.
Bien sûr, ouais.
Et le lendemain, donc la sœur me recontacte et bon, voilà, on commence à discuter, ça se passe très bien. Et je sais qu'un jour, elle m'envoie une vidéo chez elle où elle a un placard rempli de colons. Quoi.
Ah ouais,
d'accord.
Et là, je pense que comme
un
dans
placard,
la
vraiment.
Non mais sérieux. Quoi. Et là, je pense que je sais pas si tu te souviens de la pub Carte d'Or avec la nana qui rentre dans le frigo. Moi, j'avais envie de rentrer dans le placard. Quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Tu te souviens de ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, petit à petit, bon, elle savait que j'étais hyper attiré par ça et donc. On en a discuté un moment et je lui dis que pour moi ça allait au-delà du fait de porter des collants ou des bas coutures. C'était pour moi, j'associais vraiment ça à la féminité, à l'élégance, pour moi une femme qui va porter des bas coutures, c'est l'élégance, tu vois, c'est le raffinement,
la sensualité.
Exactement, si elle a un compagnon, c'est une invitation à continuer à se séduire. C'est vraiment une invitation à la séduction, donc je trouvais ça extrêmement raffiné. Et on est rentré dans...
Elle, excuse-moi de te couper, quand elle t'a envoyé la photo avec l'armoire au bas, je puis dire, elle était déjà au courant, vous en aviez déjà parlé
pendant le verre.
Bien sûr.
Ah, ouais. D'accord, ok.
On en avait parlé la première fois, mais attends, entre la vidéo et le premier verre, il s'est passé 3 mois, quoi.
Ah oui.
Moi, je suis un garçon très, très lent, quoi.
Ah, très
lent.
C'est bien qu'il y avait
du temps. Ouais, il y a eu du temps, il y a eu beaucoup de temps, mais il y a aussi. Pareil aussi, c'est qu'on s'est mis ensemble au bout d'un moment, mais je lui avais aussi dit, voilà, moi, je sors d'une relation de 10 ans où j'étais l'homme d'une seule femme. Donc, pour moi, re-rentrer dans une relation, il me faudra du temps et j'ai besoin d'apprendre à te connaître, j'ai besoin de connaître tes valeurs, savoir ce que tu veux, ce genre de choses. Et pareil, pour aussi rentrer dans l'intimité, ça a mis du temps parce qu'il faut redécouvrir son corps, le corps d'une autre personne. Donc, c'est pas évident, ça prend du temps. Et je pense que le temps nous a fait que tout s'est très bien passé. On a eu une relation très fluide. Dans l'intimité, je me suis aussi reconnecté avec le fait de pouvoir comprendre qu'on pouvait avoir une intimité épanouie, ce qui n'avait pas été le cas pendant mon mariage. Donc, tous ces blocages, elle les a un peu débloqués. Et aussi par rapport, si tu reviens au fétichisme, quand on se voyait le week-end, parce que moi j'étais dispo que le week-end, on allait dans des magasins, on regardait des trucs, et c'était super, c'était génial de vivre ça à deux, quoi. C'était vraiment génial de vivre ça à deux.
C'est
quoi.
Un échange.
Oui, parce que finalement, c'est quelque chose parce que ça se manifeste, c'est quand tu le vois porter sur une femme que tu...
Ouais, c'est ça, quand tu le vois porter, ou alors...
Parce que c'est pas quelque chose que tu vas voir dans un magasin qui va t'exciter.
Non, pas du tout, mais c'est sur une femme, bien sûr, mais encore plus sur... ta femme, entre guillemets.
Oui, c'est ça. Ça prend une ampleur différente.
Moi, je me souviens que le truc qui m'avait le plus mis en émoi, tu vois, c'était pour mon anniversaire, on était sortis, donc on était allé dans un restaurant vraiment sympa. Donc, elle était très apprêtée, et moi aussi, parce qu'en fait, c'est également ça qu'on t'accompagne.
Ah. À ce niveau-là. Attends, je t'ai perdu. Vas-y. On a des petits soucis de micro du côté de Marc. Ah, ça y est.
C'est bon.
Ouais, il est de retour.
En fait, il y a aussi ça qu'il faut voir. C'est en fait, quand ta compagne s'apprête à ce niveau d'élégance, toi aussi, tu as envie d'être accordé. Donc, j'étais en costume. J'avais pas de cravate, mais j'avais une pochette qui rappelait la couleur de sa robe. Enfin, tu vois, j'essayais toujours Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et en fait, ce qui m'avait vraiment mis en mémoire, c'est qu'avant de sortir de l'appartement... elle avait réajusté sa jarretière devant moi. Ouais. Alors ça a été la seule chose que je voulais, la seule chose que je voulais, c'était qu'on rentre vite à la maison. Parce que...
voilà. D'accord.
Et donc du coup, c'est quelque chose au-delà même du plaisir, du goût, de toute l'élégance. Ouais. Vraiment, ça va vraiment au-delà, hein, comme tu disais, du simple fétichisme sur les bas, sur ce genre de choses. Est-ce que tu te cantonnes simplement à juste fortement apprécier ça, ou est-ce que ça en devient une espèce de culture, ou est-ce que tu l'entretiens, est-ce que tu t'intéresses?
Alors une culture, ouais, parce que du coup j'ai de la littérature sur le sujet, alors je voulais ramener si vous voulez. Mais...
Tu conseilles, et carrément, s'il y a des gens qui se reconnaissent.
Alors du coup, en fait, je me suis vraiment... je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de... Enfin, c'était quelque chose de... Pas, peut-être pas de commun, mais que... qui pouvait être important dans une relation de couple. Donc je me suis intéressé sur, je suis allé voir différents blogs, j'ai fait des recherches sur le sujet. Donc j'ai acheté des bouquins, ce genre de choses.
Sur l'histoire des dessous, quoi.
Exactement, des dessous et tout ça. Ah oui, donc ça va vraiment.
Et donc
au-delà de.
Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui je suis seul, mais. Si je devais rentrer dans une relation, je pense que ce serait quelque chose, ce serait difficile pour moi de ne pas l'avoir, quoi.
Ouais.
Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme je te disais, tu vois, ça va au-delà de ça. C'est un état d'esprit, c'est une élégance, un raffinement, et ça ne peut être que positif dans le couple, en fait. Si les deux s'accordent là-dessus, alors après, je demande pas à une femme d'être en porte-jartelle 24 heures sur 24, mais tu vois, de temps en temps,
à certains moments clés,
quand on sort au restaurant, quand on est tous les deux, quand on a envie de garder cet esprit de séduction, même si ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, tu vois.
Pour toi, justement, par exemple, c'est intéressant parce que parfois, en discutant de ces choses-là avec les invités et même autour de nous dans notre vie, il y a cette fameuse question de comment entretenir finalement le couple, etc., qui a parfois tendance, et d'un point de vue sexuel, on va le dire, et la vie au quotidien.
Je suis tout à fait d'accord.
Du coup, ça, par exemple, alors chacun, bien sûr, choisira posera son dévolu sur le thème qu'il voudra, mais par exemple, pour toi, ça, c'est un moyen, au-delà même du fétichisme et de tes goûts personnels, c'est une manière de casser, entre guillemets, la routine, de redonner du piment, de la magie.
Pas seulement, en fait, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'y avais pensé. Et en fait, avec cette personne, comme on est resté quasiment un an ensemble, au bout d'un moment, je dis pas qu'on est rentré dans une routine, mais je sais qu'à un moment, j'étais à deux... Enfin, je l'ai pas fait, mais je sais pas pourquoi. Mais j'étais à deux doigts d'aller la voir et lui dire j'ai envie de retrouver ces moments où on n'était pas ensemble, mais je te désirais du regard. Et à chaque fois que je posais mes yeux sur toi, j'avais l'impression de te caresser. Et ce que j'aurais voulu lui dire, c'est peut-être qu'une fois, comme ça, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, on fait comme si on n'était pas ensemble, mais on repart sur un mode de vouvoiement qui, pour moi, est une distance d'élégance. Mmh. Et on sort ensemble et tu es très apprêté, moi aussi, et je t'emmène au restaurant et je te ramène chez toi et il ne se passe rien. Et moi, je rentre chez moi et toi, chez toi. Mais on retrouve un peu cette espèce de
séduction,
de découverte, comme si on apprenait à se connaître, en fait, quoi.
D'accord. Mais carrément. C'est vrai, moi, je trouve ça.
Et est-ce que tu peux nous donner, j'imagine que l'histoire...
Excusez-nous, parce qu'on pose des questions, mais en même temps, on lit. Hein, mais on est avec vous, ne vous inquiétez pas.
On se documente. Parce que c'est super intéressant, mais peut-être que tu peux rapidement nous dire un peu l'histoire du porte-jartel. C'était quand même un objet de séduction et d'appel, comme tu dis, à la sensualité, qui n'est pas forcément quelque chose qu'il faut assimiler à une prostituée.
Non,
ou,
bien sûr.
Déjà, à la base, tu me dis si je me trompe, mais à la base de la base, c'est-à-dire que les collants, au sens comme on les enfile maintenant, c'est-à-dire absolument pas sexy, hein, où on se dandine dans tous les sens parce que ça rentre pas, en fait, à la base, ça n'existait pas, c'était les bas.
Ouais, exactement,
hein, qu'on soit d'accord, déjà.
Ce que j'ai compris de l'histoire, c'est plutôt dans les années 80, avec la création du lycra, qui était beaucoup un peu plus résistant et plus facile et moins cher à produire, donc moins cher à acheter, qui ont pris un peu le le dessus sur les porte-jartels, et après ça a disparu. Donc c'est vrai qu'après, je pense que le porte-jartel était assez associé à tous les milieux un peu fétichistes, oui, et tout, donc ça a peut-être une mauvaise image de marque.
Très sexualisé,
ouais,
en tous les cas.
Très sexualisé, tout à fait, avec peut-être l'industrie pornographique, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'après, quand on rentre un peu plus dans le sujet, on se rend compte que ça va au-delà. Tu vois, par exemple, après, avec la personne avec qui j'étais, souvent, je lui envoyais des cadeaux de la maison Servin, tu vois. Elle recevait des petits paquets, et le soir, elle m'envoyait des photos, ce genre de choses. Donc, c'était top, tu vois. Donc,
mais ouais, ça me fait penser un peu j'espère que tout le monde, au burlesque, enfin un peu à la dite avant-tise,
c'est un peu ça, ces
thèmes un peu de l'élégant, de certes sexualisé, mais d'une élégance, d'une image, d'une certaine image de la femme, où on ne montre pas, mais tout est suggéré. Mmh. Voilà.
C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est cette espèce de suggestion, en fait. Et par exemple, personnellement, j'en ai jamais vu encore, mais si tu vois une femme dans la rue qui porte un bas couture, tu sais pertinemment qu'il y a un porte-jartel associé, qu'elle va avoir une paire d'escarpins. Enfin, il y a tout un rituel.
Pour nos auditeurs, c'est quoi des bas coutures?
Oui,
alors en fait,
le
bas couture, ça va être le bas où en fait il y a la couture sur l'arrière de la jambe, avec le talon renforcé, qui va pas être complètement ajusté à ta jambe, parce que c'est du nylon et pas du lycra. Donc en fait, il va toujours avoir une espèce de pliure au niveau du genou, au niveau du coup de pied. Enfin, il y a tous ces petits
détails.
Il y a tous ces petits détails, et c'est vrai que dans le regard d'un homme qui va être un peu avisé, en fait, tous ces détails vont te rappeler tout cette élégance et ce raffinement, et tu rentres tout de suite dans un univers de séduction, entre guillemets, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement attirant, enfin en tout cas pour moi, quoi, en fait.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que sans même qu'il y ait un quelconque échange avec cette femme, etc., en fait, le simple fait qu'elle en porte, en fait, déjà, ça la met dans une espèce de positionnement... attention, parce que la manière dont je vais le dire, ça va paraître genre objet sexuel ou pas du tout, donc c'est pas ça que je veux dire, mais...
Je pense que tu veux dire, c'est que ça la met dans un positionnement où c'est une femme qui fait attention à son apparence, et qu'elle soit très apprêtée. Je pense que c'est ça que tu voulais dire.
Oui, non, mais exactement. Les invités ne nous rappellent l'objet. Maintenant, ils font les questions. Non, mais en fait, on va vous laisser le micro. En fait.
On va s'en aller.
Salut les gens.
C'est moi qui vais te faire le quiz. C'est quoi ton objet fétiche que tu as ramené? C'est ton sandwich, là, c'est ça?
C'est ça. Oh, les dessous. Ouais.
Non, mais c'est hyper intéressant. Ça donne des idées, en tout cas.
Je vais aller m'acheter
un petit ensemble là. Tu parles des porte-jartels, des bas coutures. Est-ce que des dessous très sexy aussi, une belle lingerie, te fait le même effet?
De toute façon, une femme qui va mettre ce genre d'accessoires va tout de suite mettre des dessous qui vont être associés.
Mais s'il n'y a pas d'accessoires et qu'il y a. Ouais, parce que tu vois, quand tu as été marié pendant 10 ans, ton épouse était quand même.
J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, ça lui plaisait pas trop. Donc de temps en temps, elle mettait des dimeubles, des trucs comme ça. Bon, c'est un peu le.
Des quoi des...
Les dimeubles, enfin, tu vois, c'est l'espèce de bas auto-fixant.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et bon, c'était pas. J'ai essayé de lui en acheter aussi, mais bon, ça a pas trop pris, ça a pas marché. Mais oui, c'est vrai que de la très belle lingerie, c'est très joli aussi. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut voir,
vous l'enlevez en l'espace de. Je me dis toujours, est-ce que je vais foutre 150 balles parure là.
Après, c'est ce qu'il disait. Moi, j'ai des amis, c'est comme ça, c'est que même si personne le soir va les enlever, le simple fait que de les porter, elles se sentent. Moi, je suis ton ennemi du coup, parce que je sais pas quelque chose qui m'attire, je préfère collectionner les chaussures moi, mais j'ai des amis qui, le simple fait de s'offrir ça, elles se sentent mieux. Je vais pas dire femme, parce qu'il va y avoir toute une flopée de personnes qui vont nous tomber dessus comme quoi la féminité ça se... mais en tous les cas, elles se sentent plus féminines,
je comprends, et je pense que en tout cas dans mon regard, une femme n'est jamais aussi belle que quand sa lingerie ne fait que suggérer, en fait. Et après, bon, l'avoir complètement nue, ça c'est autre chose, mais quand la lingerie suggère une élégance, c'est extrêmement plaisant pour.
Mais est-ce que c'est la lingerie qui est. Alors, tricky question. Est-ce que c'est la lingerie qui suscite ça, ou bien est-ce que c'est
la lingerie vient
mood,
embellir en fait.
Ouais, voilà, c'est-à-dire parce qu'en fait, c'est finalement la manière dont elle va se sentir elle qui va faire qu'elle irradie et qu'elle et qu'elle peut devenir excitante ou objet de fantasme, etc. Ou enfin, tu vois, je sais pas.
Est-ce Alors, que... je vais répondre à ta question. Je pense que la fameuse femme avec qui je suis resté et à qui on a pu rentrer dans ce jeu, je crois qu'une, enfin pas une des choses que je lui avais dit sur son corps, parce que enfin. Elle était souvent en jupe, je lui ai dit, je pense que t'as les jambes les plus folles que j'ai jamais vues de ma vie, quoi.
Ah ouais.
Ah, c'était dingue, quoi. C'était vraiment dingue, quoi. Et quand je la voyais en talons, enfin, c'était pff, c'est vrai que ça part quand même du principe qu'il faut, enfin, une des parties du corps que tu aimes chez une femme, c'est ses jambes, quoi. Quand tu aimes tout ce qui est bas couture, c'est ses jambes, quoi.
Oui, donc en fait, finalement, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il faut à la fois ça et en même temps, ça va lui donner plus de,
Plus de charme.
De charme, de présence, mais il faut aussi qu'elle même le soit, fière ou bien dans son corps,
pour qu'elle soit à l'aise.
Parce qu'une nana qui sera pas à l'aise dans des bas coutures à 500 euros à la paire, elle va pas irradier de toute façon.
Bien sûr.
Les deux sont.
Et pareil, une femme qui. Enfin, je vais pas être méchant, mais une femme qui a du mal à marcher avec des talons. Ça se voit tout de suite et ça la rend un peu moins attirante. Tu vois, si tu sens qu'elle n'est pas à l'aise, tu as l'impression qu'elle va tomber à chaque pas, tu te dis, bon, il y a un truc un peu bizarre. Ça fait bizarre, quoi.
Donc, ça veut dire un peu, du coup, aujourd'hui... Attends, je vais trembler la table, pardon. Toi, tu recherches une femme... Enfin, tu es avec une femme aujourd'hui ?
Non, je suis célibataire. Non, okay. Moi, je suis célibataire.
Mais tu le vis comment quand tu rencontres des nouvelles femmes, comment tu vis est-ce que tu le dis ouvertement et tu disais tout à l'heure qu'il fallait que tu trouves une femme qui aime aussi
c'est ça. Porter, je pense que aujourd'hui en fait je me suis trop toutes ces années je me suis trop empêché de pouvoir vivre ça en pensant que c'était pas bien, mais je me suis rendu compte que c'est juste c'est juste une attirance que j'ai, comme d'autres hommes pourraient l'avoir sur autre chose, ou d'autres femmes aussi,
Bien sûr.
Une partie du corps ou autre chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc, il faudrait, potentiellement, si je rencontrais quelqu'un, qu'elle puisse l'accepter. Quoi. Mais,
donc, tu le vis, tu l'acceptes.
Oui, tout à fait. Mais c'est récent, c'est vraiment récent. C'est ça qui est dingue. Quoi. J'ai 44.
C'est grâce à ce que tu disais à la psychothérapie.
Ouais, alors c'est les deux, je pense. Ouais. C'est la psychothérapie, c'est l'avoir vécu avec quelqu'un, que ce soit accepté, et le fait d'arriver à en parler et de voir en fait que la personne en face aussi l'accepte en disant bah ouais, ok, si toi vraiment ça te plaît et que ça te met en émoi, moi ça me dérange pas, tu vois. C'est pas un
ou qu'elle soit curieuse de découvrir au moins
ça,
et que
oui, parce que si elle n'y connaît rien du tout
mais qu'elle a envie
mais tu peux lui faire découvrir univers
tout à fait
carrément.
Mais par contre si tu rencontres une femme qui te dit oui alors vraiment occasionnellement je veux bien, mais franchement c'est pas que je le veux pas, c'est juste que ça me gonfle un peu, c'est pas mon délire, mais que sur tous les autres points ça pourrait éventuellement matcher.
Ouais.
Est-ce que ça commence à devenir comme, je sais pas, je raconte n'importe quoi, la distance kilométrique, le fait d'avoir des enfants ou pas des enfants, est-ce que ça peut devenir vraiment, maintenant que tu apprends à mieux te connaître, une condition sine qua non pour...
Tu sais,
pas de jugement,
bien sûr,
tu sais, parce qu'un critère va pas,
va bien
pas
sûr.
Mieux que l'autre. Hein.
Ouais, ouais. Alors, je te dirais, ça pourrait pas être un critère premier, mais... Ouais, je pense que ça pourrait coincer, quoi, honnêtement. Parce que, comme je te dis, ça va au-delà du simple fait. C'est un état d'esprit, une élégance. Et en fait, cette élégance et ce raffinement, tu vas également le trouver dans la manière de parler, dans la manière de se comporter, dans la relation que tu peux avoir avec ton compagnon. Donc, c'est un peu... Enfin, pour moi, ça ne s'arrête pas seulement à des bas coutures, en fait. Ça va au-delà de ça. Donc, je pense que ce sera important. Ouais.
Non, mais c'est bien, au moins tu sais. Et attends, 44 ans, il est jamais trop tard. Mais non, mais c'est, tu vois, en fait, il faut aussi qu'on se dise. Moi, je me dis, après avoir enregistré plusieurs épisodes de Natevero, je commence à accepter le fait qu'on puisse avoir plusieurs vies. Et tu vois, j'ai une éducation un peu comme toi, assez traditionnelle et assez. Avec des parents qui m'aiment, qui ne le disent pas beaucoup non plus.
Ouais.
Et qui sont encore ensemble.
Ouais.
Et du coup, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, c'est pas grave, en tout cas, de divorcer, puisqu'on en a reçu plein qui ont refait leur vie. C'est clair que ça peut paraître, par rapport à notre éducation, un échec ou quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. Et je peux aimer plusieurs personnes, je peux avoir plusieurs vies, je peux me découvrir une passion
d'accord.
C'est ce que disait notre ami Philippe, la monogamie saisonnière, pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents.
Ouais, j'aimais bien ce concept de monogamie saisonnière, parce que il faut qu'on arrête aussi de se stresser avec ça et de se dire non, moi je trouve ça génial qu'à 44 ans, t'es enfin sorti ça et que tu vas pouvoir le vivre peut-être 10 ans, peut-être dans 10 ans t'en auras plus envie,
peut-être
que ça va tu vois,
ça sera les moon boots mais c'est vrai que depuis quelques années je pense que je suis plus proche de la personne de laquelle je suis réellement au fond de moi, en fait. Je pense que ça vient d'une éducation un peu stricte où tu rentres un peu dans des cases, quoi.
Tu te
mets dans des cases, mais après les moments de la vie te disent, bon, là, il y a peut-être des lignes à bouger, quoi.
Tu t'émancipes de toute façon.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'en devenant, pour faire de la psychanalyse à deux balles, mais en devenant père à ton tour, du coup, tu inventes ton propre pattern, ta propre manière de faire avec les armes que tu as à ce moment-là, la mère, pas la mère, etc., etc. Donc forcément, tu es obligé de te réinventer et de créer un schéma. Et donc, en créant un schéma ou en recréant un schéma, tu vas en prendre un qui te fit mieux que celui dans lequel t'as grandi, sans le juger ou le renier du tout, bien au contraire, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Mais justement, moi, j'avais une question, pas par rapport à ça, c'est sans transition. C'est est-ce que c'est quelque chose, tu l'as super bien expliqué, etc., l'élégance, etc., c'est plus que juste des bas, etc., pour les femmes, mais quand tu vas en parler, par exemple, pour ça que ma petite question fait une transition à la suite, c'est pour ça.
T'inquiète.
Quand tu vas les rencontrer, est-ce que tu n'as pas peur qu'éventuellement, une femme qui n'a pas, qui connaît pas trop, qui n'a pas des pétences, ou tout simplement pas les moyens, elle ait l'impression que ça lui mette pas un peu pression d'une espèce de perfection. Donc en gros, avec lui, je pourrais jamais être en jean basket. Or moi, je veux bien lui faire plaisir quand on sort, tu vois, comme les cas dont tu parlais. Mais bon, faut arrêter, quoi. Les nanas, c'est pas on va pas être perché sur 15 cm de talon tous les jours, quoi.
Non, mais je comprends tout à fait ta question. Le retour que j'ai eu quand j'en ai parlé, c'est la personne m'a dit, je veux juste savoir si, comme tu me l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu vas m'apprécier, moi, avec tous les ports de jartel, ce genre de choses, ou est-ce que tu apprécies les ports de jartel et moi après, tu vois. Et c'était plus ça la question, c'était assez intéressant. Et pour répondre à ta question à toi, donc j'ai conscience que c'est contraignant, vraiment. J'ai conscience que c'est contraignant, donc la réponse est non. Mais pareil, tu vois, moi, comme je te le dis, quand une femme s'apprête comme ça, moi aussi, je m'apprête, entre guillemets, pour être, je dis pas son égal, mais qu'on soit accordé. Une femme qui sort comme ça avec toi, tu vas pas en jean, en basket. Tu as envie d'être... tu as aussi envie qu'elle te regarde avec des yeux du désir, en fait. Tu as envie qu'elle se dise mon homme est en costume,
Mais quand tu t'apprêtes aussi bien, tu vas forcément dans des lieux. Moi, je me dis, qui sort je sors.
De l'ambassadeur, quoi.
Pas ça. Très sincèrement, on est allé dans un espèce de bistrot un peu simple, si tu veux. Mais c'était mon anniversaire, donc on voulait juste marquer le coup. Après, on était ressorti, on était allé au théâtre, on était plus. On aurait pu aussi aller choisir d'aller au cinéma ou se promener dans le jardin du Louvre, si tu veux. C'est juste, on avait envie de marquer le coup, si tu veux. Et c'est vrai que souvent, je lui disais, ce que j'aime le plus, c'est qu'en fait, on, comme tous les amoureux, on se prenait la main. Mais ce que je lui disais souvent, c'est quand on est apprêté comme ça, je veux que tu sois à mon bras. Parce que ça, c'est vraiment élégant, quoi. Une femme qui est au bras de son homme, ça, c'est vraiment élégant, quoi. Donc, c'était tous ces petits gestes du quotidien, en fait, que je voulais entretenir, garder, en fait. Et c'est ça que j'aime, en fait. Comme je te dis, ça va vraiment au-delà pour moi, tu vois. C'est tous ces petits gestes du quotidien où tu tiens la porte, tu tires la chaise, si tu veux, c'est pousser le raffinement à son paroxysme, entre guillemets, quoi. T'essayes vraiment de faire un petit moment mémorable, en fait, entre guillemets, quoi.
Mais là où je te rejoins un peu, et du coup, c'est en répondant à sa question, quand tu dis, mais en fait, on peut juste aller se balader, aller dans un bistrot simple, mais c'est juste pour le plaisir de...
Exactement.
Tout ce que tu viens expliquer. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Parfois, ça m'est arrivé, moi, d'arriver dans des je sais pas, des soirées, un truc, un machin, un peu comme on dit en anglais, overdressed, tu vois, surhabillé. Et en fait, c'est vrai que j'ai constaté que maintenant, les gens, à part vraiment, s'ils font la réouverture de l'Opéra Garnier avec Roselyne Bachelot en invité machin, plus personne ne s'habille vraiment, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, il y a des moments, je raconte ma vie perso, j'ai des robes que j'avais achetées en si j'ai un super machin, un truc. Puis au final, je les adore, mais elles sont... voilà, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être limite le vilain petit canard. Et c'est vrai que je trouve que les gens, sans parler des bas coutures ou quoi que ce soit, même dans les habits...
S'apprêtent moins.
S'apprêtent moins. Et moi, je trouve ça, mais tristoun, quoi. Moi, c'est vrai que j'en suis pas au point des bas, des dessous, etc. Parce que c'est pas ma gueule, mais...
C'est vrai.
Les vêtements... Ben non, mais moi, ça me fait plaisir, en fait, de m'habiller. La dernière fois, j'étais allée, avant le confinement, à un brunch... pour un anniversaire, les copines, elles m'ont regardé en mode « Mais tu vas quelque part après ?»
Non, mais je comprends.
Non, mais moi, c'est vrai que c'est en fait.
La réaction normale des gens. Ils disent « Mais attends, mais t'as un entretien ?» Ou
T'as un date dimanche, j'avais le temps de m'apprêter.
J'avais envie d'être belle.
Bah voilà, c'est ça.
C'est ça.
Vous êtes jaloux.
Mais ça revient aussi un peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi une manière un peu d'entretenir la flamme, on va dire. C'est de... Tu vois l'effort que ta compagne fait pour toi, et si tu la regardes avec le bon regard, tu as envie de lui, pas de lui renvoyer l'appareil, mais comme je te dis, de se mettre à son égal, quoi. Tu vas pas sortir en jogging et en basket alors que ta femme est en talon de 10 cm. C'est pas correct.
Ouais.
Tu comprends, elle a fait l'effort pour toi. Ouais. C'est un effort. Elle a passé deux
heures.
Elle l'a
peut-être fait pour elle aussi, non?
Pour elle. Mais c'est pareil. Mais je lui disais, des fois, ça t'embête pas d'être toujours, de toujours comme ça. Elle me dit, non, mais j'adore ça. Donc elle le faisait d'abord pour elle, et puis
comme ça te faisait encore plus plaisir, c'est le double effet qui se coule, mais elle le faisait pour elle d'abord.
Exactement.
Ok, écoutez, on arrive à la fin bientôt de cette interview. Donc aujourd'hui, tu es sur le marché. Non, voilà.
Non, mais s'il y a des jeunes femmes.
On
peut faire le matchmaker.
Carrément, ça a déjà fonctionné.
On
a déjà présenté avec l'accord de l'invité. Et tout le monde était consentant. Mais en tout cas, donc aujourd'hui, tu te retrouves toi et tu commences à mieux te connaître et être bien.
Ça, c'est le plus important, je pense, parce qu'en étant bien pour moi, mon fils me voit bien.
Bien sûr.
C'est vraiment cool. Ouais.
Papa solo, papa heureux, papa super papa. Et on arrête
les clichés, s'il vous plaît.
Les clichés et d'être choqué. Pareil, la vision qu'on peut avoir sur le fétichisme aussi, moi ça me fait penser que c'est pas forcément quelque chose de dégueulasse, quelque chose de pervers, Après, chacun le voit comme il veut. Aujourd'hui, c'était la vision de Marc qui l'a très bien expliqué. Donc on n'est pas en train de faire de généralité, ou t'es pas en train de dire que tous les hommes adorent les porte-jartelles. Ne vous inquiétez pas, mesdames, si vous n'en portez pas, peut-être que votre homme n'aime pas ça, ou n'en veut pas, ou ça ne lui fait rien. Donc voilà, encore une fois, on est obligé de le préciser maintenant de plus en plus pour pas avoir de messages de personnes qui pourraient nous dire
les hommes sensibles.
Les hommes sensibles. Donc on va terminer en vous remerciant déjà.
C'est moi qui vous remercie.
Bernard Pivot, si tu nous écoutes.
C'est moi qui vous remercie de...
Vraiment, très très beau témoignage, hyper émouvant, hyper intéressant. Et ce que j'ai trouvé, au-delà de se renseigner sur une forme de fétichisme...
Ouais, parce que c'est une forme de fétichisme. Voilà. Ouais.
C'est que surtout, ça va au-delà de l'objet. Ça aurait pu être une partie du corps, ou je ne sais pas, en l'occurrence c'est un objet, mais ça va au-delà de l'objet, et que tu puisses à ce point nous expliquer toute cette espèce de philosophie qu'il y a derrière, avec bienveillance et envers l'autre, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant, donc... Merci beaucoup.
Déjà, je vous en prie. Alors déjà, il y a plusieurs choses. En fait, c'est moi qui vous remercie, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte hier soir, mais le fait de venir ici et de pouvoir en parler, c'est aussi une forme d'acceptation. Donc c'est important pour moi, en fait. C'est un pas de plus dans l'acceptation. Donc c'est vraiment moi qui vous remercie. Et comme tu l'as dit, ça va au-delà de ça. En fait, je suis quelqu'un qui suis très attaché à l'élégance, mais pas seulement à l'élégance physique, à l'élégance intellectuelle. la manière de se comporter, la manière de parler des autres quand ils ne sont pas là, la loyauté, ce genre de choses, qui sont des fois malheureusement des valeurs qui se perdent un peu, mais je suis très attaché à ça en fait. Quoi.
Je suis d'accord. En fait, c'est des belles valeurs.
Par la sécu.
Exactement.
Ah là là, non, mais c'était très belles valeurs. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, je suis très attachée à tout
surtout
ça aussi.
Par les temps qui courent.
Exactement.
Le monde est difficile.
Et tout le monde se juge, tout le monde se critique. Et donc voilà, essayons quand on écoute des épisodes de
s'ouvrir. C'est ce qu'on disait avec Pascal, hein, de regarder un peu, de balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres.
Ouais, non, et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est justement récolter ce genre de témoignages pour justement montrer qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs schémas, plusieurs hommes, plusieurs visions de l'amour, du fétichisme, de tout ce que tu veux. Et c'est génial, tu vois, personne ne juge, on n'est personne pour dire que c'est pas bien, c'est pas normal ce que tu fais. Au contraire, voilà, c'est toi, ta manière d'être heureux, ta manière de vivre l'amour, la sensualité, la sexualité, et tant mieux, en fait, si ça te va et que ton compagnon, ta compagne accepte et kiffe aussi, bah, grave, kiffé, quoi.
Et je pense que ça aura sûrement aidé beaucoup de personnes de t'entendre, de t'écouter, pour désacraliser peut-être ces choses-là.
Ouais.
Donc merci, toi aussi tu as été d'utilité publique. Voilà.
Tu devrais aussi être remboursé par la sécu.
En fait, on est tous remboursés. Bon, allez.
Allez, on y va. Merci beaucoup à tous, et à très vite. Salut.
Merci,
salut.